L'actualité des Alpes du Sud avec tous migrants qui mettent en cause les forces de l'ordre.
Un contrôle de police aurait conduit une Nigériane de 21 ans à fuir. Il s'agirait de la femme retrouvée noyée dans la Durance, selon l'association.
Le maire de Briançon exaspéré par Génération Identitaire.
Gérard Fromme demande une réponse ferme de l'État alors que ce mouvement d'extrême droite serait toujours à Briançon pour contrôler la frontière.
Et puis troisième jour de procès pour cet argentier roi de 20 ans.
Le verdict attendu ce soir dans l'affaire du meurtre d'Océane Bigard et fauché mortellement par un véhicule le 7 août 2015. C'était à la sortie de la boîte de nuit, le Baroque.
L'abbaye de Boscodon inaugure une nouvelle muséographie.
Trois thématiques en trois salles pour découvrir toute l'histoire de ce cloître. Un voyage à travers le temps.
Et puis en sport, coup de chapeau au Badminton Club de Briançon qui revient médaillé.
Trois jeunes participent au championnat de France à Mulhouse. Trois licenciés qui ont décroché des médailles d'argent et de bronze. La météo, quelle couleur?
Malgré quelques passages de nuages très élevés, le soleil va effectuer de belles prestations ce matin sur nos deux départements, faire disparaître les nuages bas, les cumulus qui bourgeonnent l'après-midi vont apporter un peu d'ombre et quelques averses quand même, averses éparses du Kera à Lubaï et sur les secteurs proches des Alpes de Haute-Provence, jusque même dans le Laragnier côté température. Pour aujourd'hui, les maxis sur nos deux départements de 16 à 22 degrés. Élodie Barral a disparu depuis le samedi 12 mai aux alentours de 14h à Hanotte.
Sa famille a lancé un avis de recherche. Ce 12 mai, cette femme de 28 ans devait rejoindre une amie. Elle était vêtue d'un jean bleu, d'un t-shirt et d'une veste noire. Elle portait également un sac à main et un bagage. Les recherches de la gendarmerie n'ont pour l'instant rien donné. En cas d'information, contactez la brigade d'Hanotte au 04 92 83 20 05.
La jeune femme retrouvée noyée dans la Durance serait donc une Nigériane de 21 ans, selon l'association Tous Migrants.
Le corps sans vie d'une jeune femme a été repêché mercredi 9 mai au niveau du barrage de Presles à Saint-Martin-de-Carrière. L'autopsie qui s'est déroulée ce lundi à l'Institut médico-légal de Grenoble confirme la thèse de la noyade. Le parquet de Gap assure que la victime n'a pas été formellement identifiée. Mais pour l'association Tous Migrants, il s'agit donc d'une Nigériane de 21 ans qui aurait fui, surpris par des policiers alors qu'elle marchait le long de la RN94. Et alors que Tous Migrants met en cause les forces de l'ordre, la préfète des Hautes-Alpes tient à leur réaffirmer sa confiance. Il convient de laisser les autorités judiciaires mener sereinement cette enquête à son terme, indique Cécile Bigot de Kayser dans un communiqué.
La préfecture qui répond aussi à Gérard Fromme, le maire de Briançon.
Ce dernier a écrit à la préfète lui assurant que les activistes de Génération Identitaire paradent plus que jamais dans le Briançonnais. Pour le maire de Briançon, ils continuent de poursuivre leur opération de protection de la frontière en toute impunité. Gérard Fromme s'interroge pourquoi aucune mesure concrète n'a été prise par l'État pour stopper leur sinistre opération alpine. La préfecture des Hautes-Alpes qui rappelle que le contrôle aux frontières est une mission strictement régalienne qui incombe au seul service de l'État et s'exerce sans aucune collaboration avec des mouvements tels que Génération Identitaire.
Le verdict est attendu dans la soirée dans le procès du meurtre d'Océane Bigard.
Cette jeune femme de 18 ans a été mortellement fauchée le 16 août 2015 à la sortie de la boîte de nuit Le Baroque à Briançon. Elle est décédée des suites de ses blessures en octobre de la même année. Et depuis ce lundi, Loïc T., un argentier roi de 20 ans, comparaît pour meurtre et trois tentatives de meurtre. C'est lui qui était au volant du véhicule le soir du drame, Cyrielle Michard.
À la barre, Loïc T., argentier roi, habillé de noir, le regard fixe dans le vide, la mine grave. Si son allure semble robuste, son air est fragile. Au juré, il explique ses difficultés scolaires depuis les faits. Lui qui, en 2015, était en passe d'obtenir un BEP commerce et un brevet d'état de moniteur de ski. Désormais domicilié à Marseille, il se rend toutes les deux semaines chez un psychologue. On parle de l'accident et du procès. Mais à la question du président de la cour d'assises, « Comment voyez-vous votre avenir ?» Le jeune homme fond en larmes, déclarant préférer ne pas y penser. Alors qu'est-ce qui a conduit Loïc, ce soir du 16 août 2015, à foncer au volant de son véhicule sur Océane, indifférent entre deux bandes rivales, celle des Toulousaines à Briançon et celle de l'Argentière, selon le directeur d'enquête. Un conflit né un an auparavant, quand Loïc et son frère sont déjà pris à partie et qui se poursuit ce soir-là au sein de la boîte de nuit Le Baroque à Briançon, si bien que les agents de sécurité sont obligés par deux fois d'intervenir. Loïc explique alors avoir pris le volant de sa Golf pour ramener l'un de ses amis près du col d'Izoard. Et alors qu'il passe une première fois route des Maisons Blanches, il croise le chemin de l'un des amis d'Océane. Ce dernier a brisé un manche à balai en deux et semble menaçant. Loïc s'arrête plus loin, mais au lieu de poursuivre sa route, il repasse trois fois par cet axe, alors qu'à plusieurs reprises, son véhicule est caillassé. Des impacts de pierres de 200 et 700 grammes sont d'ailleurs relevés sur le pare-brise par l'expert. Selon le président de la Cour, il y a eu une véritable prise de risque de la part de Loïc face à ces menaces. Et d'ailleurs, le jeune homme déclare peu avant les faits à ses amis être attendu de l'autre côté du tunnel par les Toulousaines et vouloir s'expliquer avec eux.
Un véhicule, vous l'avez dit, qui a été examiné pour comprendre comment la jeune fille a été percutée.
L'examen du véhicule devait dans un premier temps permettre d'éliminer les causes mécaniques dans ce drame. L'expert souligne que suite aux impacts de pierre de la bande rivale, Loïc n'avait quasiment plus aucune vision de ce qui se passait en face de lui. Mais contrairement au dire du témoin entendu plus tôt ce mardi après-midi, les traces sur le véhicule indiquent que le corps de la victime n'a pas pu être éjecté. Selon lui, l'impact a dû se produire entre 50 et 70 km/h. Car le corps a perforé le pare-brise, alors qu'à 40 km/h, le corps est éjecté et rebondit. Toujours selon lui, le corps d'Océane serait resté sur le capot après le choc et aurait été éjecté dans un deuxième temps lorsque Loïc freine pour emprunter le rond-point. Des analyses qui ne manquent pas d'agacer l'accusé, notamment sur la vitesse. Loïc maintient devant la cour qu'il ne roulait pas à plus de 50 km/h. Très énervé, il déclare avoir demandé une autre expertise. Celle-ci a été faite à l'arrache, lance-t-il.
Merci Cyrielle, et le verdict donc est attendu ce soir.
Daniel Spagnou qui dément les accusations du maire de Barré-sur-Méouge.
Bruno Lagier accusait la semaine dernière sur Alpe 1 la communauté de communes du Sisteronnais-Buëge de ne pas réagir alors que la DSEA va quitter sa commune, déménageant les 21 résidents du foyer Val-de-Roche-sur-Gap. Il mettait en avant que l'ancienne communauté de communes de Ribier-Val-de-Méouge avait voté l'acquisition pour l'euro symbolique de ce bâtiment. Mais selon Bruno Lagier, ce dossier est devenu lettre morte pour le président de l'actuelle intercommunalité. Daniel Spagnou qui réfute, assurant que des discussions ont bien été engagées pour racheter, en effet, à l'euro symbolique, cette structure.
Quand j'ai pris la présidence, j'ai tout de suite pris contact avec la DSEA pour visiter les locaux. J'ai nommé un copil pour justement nous faire des propositions concrètes. Le 23 janvier, je me suis rendu à Gap, j'ai rencontré le président de la DSEA pour leur parler de ce projet et leur dire qu'on était prêt à acheter. Et à ce moment-là, le président m'a indiqué qu'il voulait faire évaluer avant les biens, les mettre en vente et que s'il n'y avait pas d'acquéreur, bien sûr, il nous ferait refuser l'achat de ces bâtiments. À l'euro symbolique, on attend maintenant une réponse de la DSEA. Je suis un peu amer de voir que M. Lagier, qui n'est venu assister qu'à une seule réunion, alors qu'en tout il y en a eu six, est tenu des propos comme celui-là.
Des propos recueillis par Alex Kam et Cyrielle Michard.
Et si le train de nuit Paris-Briançon passait sous pavillon autrichien?
Selon le député des Hautes-Alpes, Joël Giraud, l'opérateur public EBB serait intéressé. Depuis 2016, EBB a développé sa couverture sur une bonne partie de l'Europe avec des lignes de train de nuit devenues rentables. Un opérateur qui pourrait donc arriver en France grâce à la loi ferroviaire qui va ouvrir le rail à la concurrence.
Fondée il y a près de 880 ans, l'abbaye de Boscodon offre un renouveau.
Après un chantier de 46 ans de restauration, l'abbaye de Boscodon inaugure en effet un nouveau parcours muséographique ce vendredi, un espace pour découvrir ce lieu et son histoire. Aurore Valory.
La visite, c'est déjà de commencer par les extérieurs de l'abbaye, puis ensuite de rentrer dans l'abbatiale, et après de rentrer dans le cloître pour découvrir l'organisation des lieux. Et donc la muséographie vient en complément, mais elle ne vient pas perturber cette quiétude qui est l'ensemble du cloître.
55 000 visiteurs pénètrent chaque année dans ce lieu empli d'histoire, un lieu qui a désormais son espace muséographique pour approfondir ses connaissances sur l'abbaye, mais aussi sur sa restauration. Trois thématiques sont ainsi proposées à travers trois salles. L'art des bâtisseurs au Moyen-Âge, l'histoire de l'abbaye et l'histoire de la renaissance de ce lieu. Christian Gay, administrateur de l'association Les Amis de l'abbaye de Boscodon.
L'idée de la muséographie, justement, c'est un petit peu d'aider les gens à faire l'effort d'aller plus loin que le simple tour de l'abbaye.
Écran tactile, musique, pierre de taille, sachet olfactif, la visite se veut interactive et pédagogique pour s'adapter à tous les publics, enfants comme adultes, avec sur une même thématique différents niveaux de lecture en fonction de ses intérêts.
Des panneaux explicatifs qui reprennent l'art des bâtisseurs, ce que c'est que cette pige, et un certain nombre de jeux sur, par exemple, la construction d'une voûte, et des écrans qui viennent compléter les manipulations. Les différentes formes de plantes, vous pouvez sentir la...
Ah oui.
Donc là encore une approche olfactive. On est toujours dans cette dynamique de dire pourquoi ils avaient besoin de ça. Oui. Puisqu'en fait, tout était très fonctionnel. Hein, c'était pour leur vie, relativement en autarcie.
L'abbaye de Boscodon a été construite au XIIe siècle, une abbaye plusieurs fois détruite, notamment au XIVe et XVIe siècle.
L'histoire du lieu, c'est d'abord l'histoire monastique. D'où cette table au centre avec la répartition des heures de prière au cours de la journée, puisque c'est cette régularité et cet espace-là qui, depuis des siècles, a toujours contribué à la vie ici, au rythme de vie ici à Boscodon. Alors pour chaque heure, nous avons une petite, un peu de musique, un chapitre de la règle qui permet aux gens d'aller plus loin, etc.
C'est l'association Les Amis de l'abbaye de Boscodon qui œuvre depuis 1972 à la reconstruction et à la restauration de ce lieu.
Et on a pour chaque groupe de bâtiments une étude de ce qui a été fait, le lien entre la fouille archéologique, les documents d'archives, la connaissance du lieu et la reconstruction.
Aujourd'hui, seulement deux frères dominicains y vivent, un monument historique qui se découvre désormais sous un nouveau jour.
Merci Aurore, et notez que ce jeudi se tient un colloque scientifique avec plusieurs conférences historiques. Vendredi, inauguration à 11h de cet aménagement muséographique. Et samedi, journée portes ouvertes. Vous retrouvez toutes les informations sur alpe1.com.